votre balado pédago.
Bonjour tout le monde, Frédéric Jean de Camp Pédagogue et je suis avec l'intention pédago numérique Marie-Hélène. Comment ça va, Marie?
Ça va super bien. Écoute, être à la COP, ça ne peut qu'être du bonheur. Puis en plus, cette année, on fait des balados en live avec toi, fait que moi, je rayonne de bonheur.
C'est fin, mais ça. Hey, en plus, c'est notre première journée qu'on est ensemble.
Oui.
Hier, on était très, très occupés, mais là, on a un petit peu plus de temps. Puis, parlant de temps, on va prendre le temps de jaser avec notre ami Joyce, Dr. Joyce.
Bonjour tout le monde.
Comment ça va, Joyce?
Ça va très bien.
Pour ceux qui ne connaissent pas, là, veux-tu te présenter? On t'écoute.
Bien sûr, mon nom, c'est Alexandre Joyce, mais tout le monde m'appelle Joyce parce que mes meilleurs amis s'appellent Alexandre. Alors, je leur donne la chance d'être Alexandre. Moi, je me réserve le droit d'être le Joyce. Et aujourd'hui, je représente Créativité Québec. Et notre mission, c'est qu'il y ait une équipe de créativité, un club de créativité dans toutes les écoles du Québec.
OK.
C'est ça, la mission.
OK. Mais là, il y a une autre personne qui s'en vient avec nous autres, puis il s'appelle M. Sylvain Duclos. Salut, Sylvain.
Hello, hello.
Bon, fait que M. Sylvain, je te présente Joyce. Joyce, Sylvain.
Enchanté.
Hello. Ben, Joyce, Créativité Québec, qu'est-ce que c'est?
C'est un organisme qui a à peine 2 ans d'existence, développé par Federico et Cyril, avec qui j'ai travaillé il y a quelque temps au Desjardins Lab.
Ah ouais?
Oui, c'est ça, le trio.
OK, ça a commencé là.
Oui, ouais, on est des ex-collègues du Desjardins Lab. On avait la mission que d'innover avec 45 000 employés, d'enseigner le design thinking, d'amener les gens à penser différemment. Et puis, je pense qu'on a fait un bon petit bout de chemin. On a inventé ce qui s'appelle le coopératon. Là, je te raconte des vieilles histoires. Là. On est loin de l'éducation, mais peu importe. Ça a été la manière qu'on s'est fait, connaître, qu'on a fait nos dents, qu'on a appris, et puis aujourd'hui, on développe cette notion-là que de la joute créative, des compétitions créatives.
C'est quoi une joute créative?
Alors, une joute créative a pour objectif de permettre aux jeunes de développer leurs compétences transversales, notamment celles de la créativité, mais aussi d'autres, comme par exemple la pensée critique, la capacité de mieux communiquer, autant visuellement que verbalement, le fait d'avoir une pensée citoyenne, d'avoir une pensée environnementale, sociale. La collaboration, c'est une autre compétence qu'on développe à travers la joute. Puis une dernière, ce serait peut-être le courage. Il y en a qui appellent ça en anglais « character ». Le fait bien jouer un rôle, de sortir de son sentier propre battu. je l'ai mal dit, mais c'est pas grave. Et, donc, bref, ça c'est les 6 compétences qu'on essaie de mesurer. Maintenant, comment est-ce que se joue une joute? Vraiment, on commence par donner un défi. Le défi peut être très ludique. Ça peut être quelque chose du genre inventer un pays, un drapeau, une devise, une monnaie, puis inventer un nouveau lieu. Nouvelle coutume, nouvelle culture, on peut prendre ça plein d'angles. Ou ça peut être quelque chose de très concret, du genre, il faut inventer une façon pour pas que l'œuf il casse quand on le dépose de la terre, quand il tombe en bas de la table. Là. Ça peut être quelque chose de très, très physique, très tangible, d'inventer une manière pour envoyer une bille d'un verre à un autre. Bref, ça peut être très concret comme ça peut être très ludique. Et une fois qu'on a lancé le défi, il y a 5 périodes. Au hockey, il y a 3 périodes, mais une joute créative en a 5.
Wow.
Première période, on joue de façon individuelle. On génère le plus d'idées possibles. Donc, il y a un moment où est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle la diversité. On est dans la divergence. On essaie de sortir le plus d'idées possibles. Après ça, deuxième période, on rejoint ses collègues et on fait l'émergence. L'émergence, c'est quoi? C'est qu'on fait ressortir les idées. J'écoute ce que mon collègue dit, ce que ma collègue pense comme idée. Je partage mes idées, puis ensemble, on fait émerger un concept. Ça, c'est la deuxième période. Troisième période, on converge, c'est-à-dire qu'on a notre idée, on a notre concept, mais là, il faut que ça devienne une réalité. On crée un poster, une affiche, on crée un prototype, on bâtit quelque chose, on joue avec des Legos, ça dépend de la nature du défi. Des fois, ça peut être aussi numérique, on fait quelque chose, bref. Et au final, on espère avoir un artefact, quelque chose qui est externe à l'équipe qu'on peut aller présenter, et je vous amène à la quatrième période, où est-ce qu'on présente aux autres équipes c'est quoi qu'on a créé. Et la cinquième période, c'est l'évaluation. Et donc, la façon que ça fonctionne, une joute créative, c'est qu'il y a 3 équipes, les rouges, les verts puis les bleus. Et si tu es dans l'équipe des rouges, tu ne peux pas voter pour toi-même. Mais tu peux devenir le jury de les verts ou les bleus, laquelle des 2 équipes a fait le meilleur travail d'un point de vue de la compétence de la créativité, au niveau de la pensée critique, de la citoyenneté. Et le dernier qui manque, c'est la communication. Ça, c'est les 4 qu'on peut évaluer, les collègues des autres équipes. Puis, il y a même un moment pour s'auto-évaluer en tant qu'équipe. Si on était une équipe de 4 ici autour de la table, on dirait, bon, comment ça a été nos méthodes de collaboration? Est-ce qu'on sent qu'on a bien collaboré ensemble? Est-ce que vous avez été individuellement un bon vecteur de collaboration? Et le dernier, c'est le courage. Est-ce qu'on a tous joué les rôles qu'on souhaitait jouer aujourd'hui dans la redoute.
L'auto-évaluation.
Oui.
On a tendance à l'oublier, ça,
ouais.
En éducation.
Ouais.
Pourtant, c'est essentiel.
Auto-évaluation et même évaluation par les pairs pour s'aider, là, dans le sens que moi, je pense que j'ai bien collaboré, mais peut-être que toi, ton point de vue... Peut-être qu'il y a un moment où est-ce que j'ai peut-être pas si bien collaboré. Puis là, il y a un moment où est-ce qu'on peut échanger entre nous, entre partenaires d'équipe, pour se challenger sur nos capacités collaboratives.
Hey, mais moi, là, ça m'allume parce que ce dont tu parles comme critère, on est d'aplomb dans les compétences du 21e siècle.
Et voilà.
Est-ce qu'on doit travailler avec nos élèves pour qu'ils se développent en tant qu'êtres humains?
Totalement.
Puis sur le marché du travail, j'aime pas toujours ramener au marché du travail, là, mais un, nos élèves, ils savent la qualité du travail qu'ils font. Ils sont toujours presque conscients de la qualité du travail ou de l'effort qu'ils ont donné. Ils sont souvent très conscients au niveau de leur auto-évaluation. Puis d'être capable de nommer les forces, les faiblesses de ses coéquipiers, c'est tellement important dans une équipe de travail qui se tient puis qui veut aller loin. Ça, c'est vraiment une compétence à développer chez nos jeunes.
Mm. Puis une autre aussi, si je reviens à l'évaluation des autres équipes, d'être capable d'être critique constructif, là, de dire « Hey, c'est bon ce que vous avez fait, mais il me semble que en termes de créativité, on aurait pu pousser un petit peu plus loin », puis d'être capable d'avoir ce regard sur le travail des autres, non seulement sur ça vous aide à avoir un meilleur regard sur son propre travail, mais imaginez avoir ça. Parce que là, on est rendu, ça fait un an et demi qu'on développe ça, puis j'ai pas encore j'ai pas eu du volume, dans le sens, j'ai pas eu la chance de voir un jeune après une dizaine de joutes, quinzaine de joutes. Bon, là, je dis le plus que j'ai vu, peut-être trois joutes à peu près, là, mais j'ai vraiment hâte de voir une progression dans la maturité des jeunes à force de jouer, de rejouer, puis d'être habitué à donner du feedback. J'ai très hâte. Ça, c'est une des choses que j'ai hâte le plus, là, de sentir une évolution. Je parle de maturité, mais maturité de compétences peut-être, là, chez les jeunes. Ça s'en vient. Là. Avec le temps, on va y arriver, là.
Où est-ce qu'on s'en va, Créativité Québec, dans un futur proche? Joyce, tu t'en vas où là-dedans?
Très, très proche. Il y a le championnat de créativité du Québec le 27 avril au Collège du Rocher. Il y a déjà 6 équipes d'inscrits, 6 écoles qui sont inscrites. On en cherche encore 3. Fait que si jamais, je ne sais pas quand est-ce que ce podcast sera...
La semaine prochaine.
Fait que, allez à championnat.créativité.québec, voir, envoyez-nous votre candidature et puis on va pouvoir vous accepter. Donc, ça s'en vient. Il y a 9 équipes. Moi, j'appelle ça des tiers de finale là, parce qu'il y a 3 équipes qui s'affrontent, ensuite une autre 3 équipes, puis ensuite une autre 3 équipes. Ce qui fait que les 9 équipes font ce que moi j'appelle les tiers de finale, puis après ça, les gagnants de chacune des tiers de finale vont aller en finale. Et dans chacun de ces joutes-là, on a un partenaire externe.
Avec un ça va être un autre scénario à la finale?
C'est ça. Donc, un peu comme n'importe quel tournoi, là, dans un tournoi, il y a des quarts de finale, des demi-finales puis des finales. Ben, nous autres, on a juste des tiers de finale parce que c'est des joutes à 3. Ensuite, on a la finale qui va prendre les 3 les équipes gagnantes et on va leur donner un nouveau défi.
T'aimes ça, hein?
Ah oui, j'aime ça, c'est sûr. Le voir en organisation par 3 comme ça, là, moi, ça me parle en tant que prof de maths. Là.
Ah oui. Quelque chose de fractal là-dedans.
C'est beau, c'est géométrique quand je le regarde, là, c'est parfait.
Mais t'aimerais-tu ça, toi, c'est juste l'école secondaire ou l'école primaire?
C'est les écoles secondaires pour cette année. Mais avec le temps, là, nous autres, on a une vision comme quoi cette compétition-là va prendre de l'ampleur, puis on espère que ça devienne quelque chose de pas juste québécois, mais canadien. Un jour, là, on a le droit de rêver, là, un jour international.
Non, il faut rêver.
Ah ouais, rêver, on a le droit.
Mais concrètement, là, comment ça se passe? Je veux dire, les équipes s'inscrivent pour les concours, mais avant ça, dans les écoles, c'est vous qui venez puis qui faites vivre ces activités-là. C'est les profs qui coachent les élèves. Comment ça se vit?
Justement, présentement, on est en train de développer cette capacité-là. On veut que ça soit une activité parascolaire. On veut que les jeunes puissent s'inscrire de la même façon qu'on s'inscrit au club d'échecs, au club de génie en herbe. On aimerait ça qu'ils s'inscrivent dans un club de créativité. On peut jouer de façon intramuros. Selon moi, à 6 personnes, on est capable de jouer parce qu'on fait 3 équipes de 2. Mais ça peut, si tu as 36 élèves qui sont inscrits dans le parascolaire, c'est parfait. On fait 3 équipes de 12. Chaque équipe, là, il y a un autre phénomène qui est intéressant, que la notion de trio. Au hockey, on connaît les trios. Tu sais, le premier trio affronte le premier trio de l'autre équipe habituellement. Nous autres, on a ce qu'on appelle des escouades. Fait qu'une équipe de 12 personnes, on la divise en 3 escouades de 4. Fait que tu as ta première escouade, ta deuxième escouade, puis la troisième escouade. Puis les escouades jouent contre les autres dans les équipes de 12 des autres, les 12 verts puis les 12 rouges. Eux autres aussi sont divisés en 3 escouades. Fait que là, il y a quelque chose d'encore plus matriciel là, pour le prof de maths. ça veut dire que sur 36... Mais regardez pourquoi c'est important. Parce que par rapport à d'autres activités où est-ce que c'est pas tout le monde qui est sur la glace en même temps, mm-hmm. nous, tout le monde est sur la glace. Tout le monde joue, là. Personne n'est sur le banc, personne attend. Tout le monde est en train de participer et puis en train d'utiliser sa créativité. Fait que les 36 élèves, ou 36 participants, disons, sont dans trois équipes de 12, les rouges, les verts et les bleus. Puis dans chacune des équipes, il y a trois escouades. Puis tout le monde joue en même temps. Puis c'est ça qui est... Il y a l'énergie dans la salle, laissez-moi vous dire. Là.
C'est des périodes de combien de temps?
Ça, c'est intéressant. C'est très flexible. Nous, présentement, on a un module, un modus operandi où est-ce que ça dure environ 1h40, 1h45. Là. Donc, la première période, il y a un avant-match juste pour se préparer. Comme tout, il y a un échauffement. On nomme l'équipe, il y a des activités, le fun pour se réchauffer. Ensuite, la première période peut durer soit 10 ou 15 minutes. Mais mettons qu'on dit 15 minutes, ça fait 45 minutes pour les trois premières périodes. Après ça, les présentations, c'est environ 5 minutes chaque équipe qui présente. Fait que c'est un autre 15 minutes. Puis les mentions, c'est un autre 15 minutes. Fait que là, je suis rendu à 1h15, mais tu as du flottement dans tout ça. Puis, fait que tu sais, donnons-nous 1h30 là, pour avoir du temps puis que ça soit agréable.
Que le jeu soit fini, la boucle soit finie.
Oui, exactement.
Mais là, c'est-à-dire, le 27 avril, tu vas voir, là, tu me dis que tu cherches 9 écoles.
On en cherche 3 parce qu'il y en a, je pense qu'il y en a 6 qui sont inscrits.
Ouais, ouais. Il y en a 6, tu en cherches 3 pour un total de 9.
Oui.
Là, il va y avoir, mettons, il y a combien de joutes qui va se faire là, en tout et en tout?
Fait que il va y avoir trois tracks, je sais pas comment dire ça, trois espaces de jeu.
Ouais.
Donc, dans le premier espace de jeu, il va y avoir trois équipes qui vont s'affronter.
Ouais.
Donc, un collège, un deuxième collège, puis un troisième collège. Nous autres, on a déterminé que c'était des équipes de 9 pour la première joute. Fait que il va y avoir 3 x 9, il va y avoir 27 personnes dans une salle, il va y avoir 27 personnes dans une autre salle, puis 27 personnes dans la troisième salle. Puis tout le monde va s'affronter en même temps.
Wow.
Sur des scénarios identiques ou des scénarios
non, justement, chaque salle va avoir un on est en train d'aller chercher des nous appelons ça des commanditaires, dont Ubisoft. D'ailleurs, le grand prix, c'est d'aller à Ubisoft voir leur équipe de jeu. Ils ont un historien chez Ubisoft. Les jeunes vont avoir la chance de vivre une journée chez Ubisoft. Ça, c'est le grand prix. Mais Ubisoft va donner un défi. Je peux pas vous dire c'est quoi le défi parce qu'on veut pas que les gens commencent réfléchir là-dessus.
Mais
il y a plein d'enjeux avec les jeux en ligne aujourd'hui. Fait que je pense que c'est assez juste ça. Ça donne un esprit là, que Ubisoft en serait un. On pourrait avoir d'autres partenaires qui pourraient aussi offrir des défis dans leur domaine. Puis comme ça vient donner un encore plus de sens aux joutes là, que de faire travailler les jeunes leur créativité sur des cas, des vrais cas.
Ce qui m'allume, moi aussi, là-dedans, là, on a parlé des compétences du 21e siècle. Tu as parlé de design thinking. Moi, j'ai rencontré ce concept-là en programmation. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la programmation, c'est quelque chose qui était vraiment véhiculé et que j'attache beaucoup à la compétence de résolution de problèmes également, qu'on veut travailler autant en numérique, qu'on veut travailler au niveau des maths. Je trouve que l'approche que vous avez développe aussi cette compétence-là avec les jeunes. On est là-dedans, là.
Totalement. Écoute, le design thinking, c'est aussi connu comme étant le processus à double diamant. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que le premier diamant de l'empathie, la définition de problème, on l'a fait avec l'entreprise ou avec le défi qu'on va donner cette journée-là. On lance le défi, puis ça, là, on part dans le deuxième diamant qui est idéation, prototype, puis test même. Si on peut continuer le parallèle, le test, c'est que c'est les autres équipes qui nous donnent du feedback sur notre création. Fait que oui, il y a un parallèle... C'est ce que j'enseigne, le design thinking. C'était faisait partie de mon doctorat. Fait que
ouais, c'est ça.
C'est proche de...
C'est pour ça qu'on t'appelle docteur.
Oui, c'est ça. C'est entre autres pour ça. C'est pour une référence...
doctorale.
Entre autres, oui.
Ouais.
Je regarde Sylvain, là, on se fait des yeux. Puis, tu sais, je me dis, ça... Je suis folle, moi, de penser que la compétence avec le design thinking, ça rapproche aussi beaucoup de la résolution de problèmes en maths?
Oui, tout est interrelié. Puis moi, ce que je trouve intéressant dans cette idéation-là, c'est que... Moi, ce que je remarque chez mes jeunes depuis un certain temps, depuis quelques années, c'est que mes jeunes ont tendance à reproduire des choses qu'ils connaissent. Les jeunes remarchent des concepts, ils remarchent des personnages.
Fait que
cette idée de les sortir de leur zone de confort, de les ressortir, ils sont capables d'imaginer, mais les jeunes sont... C'est ça.
Ouais, écoute, je pense que ça fait partie du processus d'apprendre par imitation, de commencer dans quelque chose de plus confortable. Je pense que c'est une question de cycle. La créativité, il faut pas penser, surtout chez les jeunes là, qui ont tellement de pression sociale. Quand tu penses à ça, là, les jeunes, pour qu'ils créent et qu'ils sentent qu'ils peuvent créer vraiment de façon libre, pourtant, ils savent qu'ils vont être jugés par leur père. Puis ça, c'est une des choses les plus importantes dans leur esprit, là, c'est le regard de l'autre par rapport à leur création. Fait qu'il y a cette notion, là, je sors un terme que tout le monde utilise, là, un safe space. Là.
Mm-hmm.
Mais c'est important d'être capable de créer ça. Puis je crois que la joute de créativité le crée parce que c'est très court. Le temps, on n'a même pas le temps de réfléchir à « c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? » Écoute, on a 15 minutes, on y va avec ça, puis on l'adaptera en chemin. Puis, donc, la notion d'une joute avec un début, un milieu, puis une fin, que ça soit fermé, oui, il y a le regard de l'autre parce qu'il y a l'évaluation, mais il y a moins cette attente-là de quelque chose de parfait, de peaufiné du premier coup.
Mmh.
Et l'opportunité pour les jeunes de développer leur confiance en eux.
Totalement.
C'est de prendre des risques. Moi, je pense à quand je collabore avec les universités pour recevoir des stagiaires, puis que les superviseurs de stage me disent qu'ils doivent encore tout prémâcher des travaux parce que les stagiaires ont de la difficulté à prendre le risque, qu'ils ont encore besoin d'une démarche ultra structurée. Tu sais, c'est en plein ça que tu viens travailler, là. C'est de dire, vous, les jeunes, là, vous allez créer votre démarche d'un bout à l'autre, vous allez sortir de votre zone de confort, penser en dehors de la boîte pour en arriver à créer quelque chose pour résoudre un problème.
En fait, si je peux faire du pouce là-dessus, je dirais que nous autres, on détermine la démarche. Il y a les périodes, on sait c'est quoi même la nature du résultat. Ça va-tu être avec des bâtons de popsicle, on vous les donne, tout ça. Justement, étant donné qu'on enlève autant d'éléments sur le processus, sur la matière première, tout ça, les jeunes ont la chance d'être créatifs parce que là, ils sont obligés de penser à l'extérieur de la boîte parce qu'ils savent qu'ils ont juste 10 minutes. Ils savent qu'on leur donne juste des bâtons de popsicle puis un morceau de tape de 1 mètre seulement. Puis tu peux pas le réinventer, ton morceau de tape. Là. Il faut que tu le découpes, il faut que tu le repenses. Moi, j'aime penser que pour penser à l'extérieur de la boîte, c'est le rôle du pédagogue ou du coach ou peu importe de créer la boîte.
Mais en fait, tu dis que tu amènes la structure, mais c'est le début de l'enseignement. C'est le début du développement de la compétence. Ils ne l'ont pas encore, mais toi, tu l'amènes, cette structure-là. C'est réconfortant au début, mais en grandissant, ces ados-là, qui deviennent des étudiants, probablement de cégep, d'université, des adultes, vont prendre confiance parce qu'ils vont la connaître, cette structure-là, puis à un moment donné, ils vont devenir autonomes, avoir davantage confiance en eux pour sortir de la boîte puis créer des choses.
Je suis avec toi.
Yeah!
C'est pour ça que Créativité Québec existe, en fait.
Oui, c'est notre raison d'être, c'est de permettre aux jeunes de développer ces compétences-là, de permettre aux profs, de permettre à des animateurs de vie parascolaire de pouvoir développer ces compétences-là dans un cadre qui est, comme je le disais tout à l'heure, un safe space, mais même un quelque chose de motivant, de la compétition, là, sentir qu'il y a un gagnant puis un perdant, même si c'est du hockey, là, on aime ça. J'ai gagné, mais ça fait partie de la vie perdre. Là. Fait qu'il faut créer ces mécanismes-là.
Wow.
Là.
Wow, c'est bon.
C'est 100% ludique. Ouais. On est au secondaire. Là. C'est peut-être, ça fait peut-être plus référence au
primaire. Il faut apprendre à gagner en équipe, il faut apprendre à perdre en équipe. Excuse-moi, je...
Have fun.
Oui, c'est ça.
Joyce, c'était un bonheur de jaser avec toi. Très content. Si on veut faire partie de cette joute créative, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, allez sur le site championnat.creativité.québec. Il y a un petit formulaire où est-ce qu'on peut signaler son intention. Puis nous autres, on va prendre contact avec vous pour vous accueillir.
Merci, Joyce.
Ça m'a fait plaisir, Fred.
Merci, Sylvain. Merci, Marie-Hélène.
Merci à vous.
Ça a été un plaisir et une très belle découverte.
Bye-bye.
Votre balado pédago.